Poséidon, chapitre 32, épisode 9. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 32e épisode de la mythologie. Les femmes, les maîtresses, les amantes, les nymphes et les enfants de Poséidon. 7e et dernier épisode. Tyro est la fille de Salmonée et d'Alcidicée. Elle a deux fils d'une première union avec Poséidon, Pélias et Nélée. Salmonée est un des fils d'Éole. Il passe sa jeunesse en Thessalie, puis émigre en Élide, où il fonde la ville de Salmonée, dont il devient le roi. Marié dans un premier temps à Alcidicée, dont il a une fille, Tyro. Racontons d'abord l'histoire de Pélias. Pélias est fils de Poséidon et de Tyro, puis fils adoptif de Créthée, roi d'Iolcos en Thessalie. L'adoption chez les amantes des dieux est une situation quotidienne. Comme nous en avons déjà parlé, les affaires du gouvernement de l'Olympe sont très prenantes et vu le nombre d'enfants conçus par Poséidon et Zeus, en ne parlant que d'eux, il serait difficile de faire tenir toutes ces nymphes et leurs enfants dans une ville harem. De toute façon, je ne suis pas si sûr que le dieu de la mer se soucie beaucoup de ses amantes et de ses descendants. Bonjour, tu te souviens de moi? Je suis la mère de tes enfants, Pélias et Nélée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Tyro elle-même délaissa l'éducation de ses enfants. Les deux enfants, délaissés par leur mère, sont recueillis et élevés par un berger. À l'âge adulte, ils sont reconnus de nouveau par leur mère, laquelle, entre-temps, a épousé Créthée, roi d'Iolcos. Pratique, les enfants sont bien accueillis dans cette nouvelle famille. Ce n'est pas toujours le cas. Quelque temps se passe, ce qui permet à chacun de mieux faire connaissance. Nélée s'est rapprochée de ses demi-frères, alors que Pélias, lui, est resté solitaire. Un jour, le beau-père décède. À la mort du père adoptif, Pélias s'empare du trône, devenant ainsi roi usurpateur. Éson, son demi-frère et père de Jason, étant le roi légitime. Cette situation n'est pas sans rappeler la prise de pouvoir de Minos à la mort du roi Astérios. Craignant pour ce pouvoir mal acquis, il consulta un oracle qui lui répondit que sa mort viendrait avec un homme ne portant qu'une sandale. Quelque temps après, alors qu'il célébrait une cérémonie à laquelle Jason participait, il remarqua qu'il lui manquait une sandale. Jason l'avait perdue en traversant une rivière. Il lui demanda donc ce qu'il ferait à sa place s'il était roi et avait reçu un oracle lui prédisant qu'il serait assassiné par un sujet. Jason répondit « Je l'enverrai rechercher la toison d'or. » C'est ainsi que Pélias, trouvant l'idée excellente, envoya Jason en Colchide et pensant ne jamais le revoir. Il se débarrassa, pendant ce temps, d'Aison et de sa famille. Mais Jason revint victorieux de sa quête. À son retour, ayant appris ce que Pélias avait fait, avec l'aide de la magicienne Médée, il ourdit un plan pour se venger de ce roi usurpateur. Médée se déguisa en prêtresse d'Artémis et se présenta à la cour du roi. Là, elle fit croire aux filles de Pélias qu'elle possédait un moyen pour rajeunir leur vieux père. Elle en fit la démonstration avec un bélier, qu'elle coupa en morceaux et fit bouillir dans un chaudron, en y ajoutant certaines substances. Il en ressortit un agneau, un lifting en somme. Voici un cadeau merveilleux à offrir à votre père. Ainsi persuadées, les filles de Pélias firent de même avec leur père, ce qui lui fut bien évidemment fatal. Jason et Médée furent par la suite bannis d'Iolcos et se réfugièrent à Corinthe. Racontons maintenant l'histoire du second fils de Poséidon, Nélé. Une vie simple, mais tragique. À la mort de son père adoptif, les deux frères et leur demi-frère se querellent au sujet de l'héritage. Son frère a pris de force le trône et il décide de se retirer. Vaincu, Nélé part en Messénie, dans l'ouest du Péloponnèse. Mais il ne part pas seul. Avec lui l'accompagne le fils de son demi-frère, Amythaon. Arrivé en Messénie, Apharé, cousin de Tyro, leur permet de s'installer dans la ville de Pylos, dont il devient le roi. Il épouse Chloris, fille de Niopide, dont il a 12 fils et une fille, parmi lesquels se trouve Nestor, le vieux meneur de chars de la guerre de Troie, Périclymenos et Chromios, ainsi que Péro. L'histoire le retiendra comme celui qui a renouvelé les Jeux Olympiques. Mais sa fin est tragique. Un conflit avec Héraclès va avoir raison de sa vie et des siens. Iphicitos, fils de Rhitos, roi de Calie, son père, et lui furent tués par Héraclès qui prétendait épouser leur sœur. En quoi cela concerne donc Nélé ? Eh bien, il se trouve qu'Héraclès, après son emportement meurtrier, demanda à Nélé de le purifier d'avoir tué Iphitos et sa famille. Il eut beau lui raconter qu'Iphitos avait donné l'arc recourbé, le carquois porte-flèches et les flèches terribles à Ulysse, à Mécénée, dans la demeure du brave Orsilochos. Bref, des salades que tout cela. Rien ne justifiait qu'il décochât des flèches mortelles pour le refus de la main d'une jeune fille. Nous connaissons le comportement brutal d'Héraclès et je crois que pour lui, nous pourrons dire qu'il va de Charybde en Scylla. L'expédition d'Héraclès contre Pylos. Pour se venger du refus de Nélée de le purifier après le meurtre d'Iphitos, Héraclès ne trouvera rien de mieux que d'assiéger la ville et tua son roi ainsi que tous ses enfants. Hormis Nestor, qui se trouvera ce jour-là être absent. Violence, toujours violence. Nélée est enterrée sur l'isthme de Corinthe. Si un jour vous venez en Grèce, je vous conseille de visiter le Péloponnèse, berceau des premières civilisations hellénistiques à l'époque d'Agamemnon. Triste sort que celui des enfants de Tyro. Pour l'un, le pouvoir mal acquis ne profita pas. Pour l'autre, se frotter aux héros les plus populaires de l'Olympe ne lui permit que de mourir sans se renier, c'est-à-dire dignement. Thymopolée, fille de Poséidon, de mère inconnue. Enfant abandonné à la naissance, reconnu par le père, qui n'a jamais voulu donner le nom de la mère de l'enfant. Situation des plus étranges, n'est-ce pas? Eh bien, ça existe chez les dieux. Poséidon reconnaît à l'état civil de l'Olympe Thymopolée. Donc, rien à dire de ce côté-là quant aux techniques de séduction déployées ou origine sociale de la mère. Peut-être a-t-il donné son chemin à une nageuse sur la mer Égée qui lui a proposé de l'accompagner avec ses dauphins. Bref, nous resterons dans l'anonymat que nous impose la mythologie. Briarée épouse la fille de Poséidon, Thymopolée. Briarée est un des trois géants à 100 mains. Il est plus puissant que Poséidon, que Pontos et que Thalassa. Son nom signifie le fort, le redoutable. Ses deux frères sont Cotus et Gyès. Il fait partie du groupe des personnifications des forces de la nature auxquelles appartiennent les titans et les cyclopes. Sa naissance et ses exploits sont racontés par Hésiode et Homère qui lui donnent aussi les noms d'Obriaré et d'Egeon. Ce dernier nom suggère l'idée de la mer soulevée par les tempêtes et dont les flots bondissent pareils à des chèvres monstrueuses. Egeon Briarée est manifestement une personnification des vagues que la tempête élève jusqu'aux hauteurs du ciel. Et c'est à ce titre que Poséidon le marie avec sa fille Thymopolée, celle qui roule les flots. Il est l'inventeur des vaisseaux de guerre et juge les contestations entre Hélios et Poséidon au sujet de Corinthe. De manière plus générale, il sert de médiateur entre son beau-père et toutes les personnes contre qui il s'énerve régulièrement. Il a du pain sur la planche. Ce géant à 100 mains est un médiateur et sa femme lui sert de rempart quand elle roule les flots. Maintenant, une question. Comment échapper au harcèlement de séduction de Poséidon ? En fait, vous l'aurez remarqué, Poséidon chasse tout ce qui bouge dans l'eau, mais il est possible de lui échapper. Athéna au secours de Coronis. Coronis était la fille de Coronée qui fut changée en corneille par Athéna afin de lui permettre d'échapper aux poursuites incessantes de Poséidon, tombé éperdument amoureux d'elle. Vous n'allez pas me croire, mais nous en avons fini avec les femmes, les maîtresses, les amantes, les nymphes et les enfants de Poséidon. Nous allons donc laisser le maître et époux de la mer, même si, occasionnellement, nous reparlerons de lui. Laissons les naïades et les flots de la mer Égée au calme et profitons de cette nuit sereine, éclairée par la lune, pour suivre dans nos rêves quelques dauphins rieurs. Merci de rester fidèles à nos rendez-vous mythologiques. Je vous attends pour un 33e épisode où nous parlerons d'Artémis.